Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ouais. Bah, j'imagine que oui, avec ton CV en plus, tu dois être recherché, quoi. Tu dois être demandé.
Ouais. Vite fait. Vite fait.
Salut, c'est Clément.
Et salut, c'est Louise Petrouchka.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du son d'après. Et on est, bon, je suis Clément et comme toujours je suis accompagné de ma meilleure binôme, Louise Petrouchka.
Bonjour.
Et on est hyper ravis d'être de retour avec un format invité, ça faisait longtemps,
ouais.
Voilà, on l'a potassé, on l'a préparé bien dans notre coin et on est vraiment ravis d'accueillir aujourd'hui Pierre-Claude. Bonjour.
Bonjour Clément et Louise.
Salut.
Tu vas bien?
Très bien, super, merci de me recevoir.
On est super content que tu sois là. Je vais te présenter rapidement. Tu es lighting designer et scénographe. Tu as travaillé à mettre en lumière de nombreux artistes comme Geza Feuchstein à Jena Dead, de Boys Noise à Étienne de Crécy. Enfin, on va avoir le temps de dérouler un petit peu ta carrière qui est, ma foi, assez longue et riche. On a vraiment hâte que tu nous parles de tout ça, surtout parce que je pense que Louise et moi, on a en plus une affection particulière au concert, et donc j'ai hâte que tu nous racontes un petit peu tout ça. Mais avant qu'on commence, Louise, est-ce que tu peux rappeler c'est quoi le son d'après pour les gens qui nous découvriraient grâce à toi?
Bien sûr, c'est un podcast de découverte musicale, le son d'après, qui sort un lundi sur deux, où on partage un peu nos kiffs musicaux du moment, en espérant vous faire alimenter vos playlists musicales. Et aujourd'hui, du coup, nous, on a demandé à Pierre de ramener deux tracks d'artistes qu'il aime, qui ont marqué sa carrière, et de notre côté on a chacun ramené un morceau dont on voudrait discuter avec lui, et voilà, c'est ça le son d'après.
Exactement. Dernière chose avant qu'on commence, les petites recommandations du genre, vous avez l'habitude, chers auditeurs, vous allez pouvoir retrouver les 4 morceaux qu'on s'apprête à vous diffuser dans la playlist du son d'après. Comme d'habitude, on est ravis du coup d'accueillir tes 2 morceaux. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez mettre des petites notes sur Apple Music et Spotify. Suivez-nous aussi sur les applications de podcast particulièrement. Et puis sinon, aussi, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram et Twitter et TikTok aussi désormais. Voilà, super. Bon, j'ai hâte maintenant qu'on parle de musique. Je te propose qu'on passe tout de suite. La première question qu'on va te poser, Pierre, c'est quoi tes premiers souvenirs de musique ?
Je pense que mes premiers souvenirs de musique, c'est à la maison, tout jeune. Mon père écoutait Gainsbourg en boucle et ça a fait quelque chose qui m'a un peu déstabilisé, de me dire que la musique pouvait être aussi importante dans une vie.
Ah ouais, c'était vraiment un truc... Gainsbourg, c'était genre l'artiste fétiche de ton père ?
C'est ça, c'était en boucle. C'était en boucle et dans un deuxième temps, je suis né à Bourges, qui était une ville importante pour la musique. Un des plus grands festivals de France, je pense, à l'époque, et qui était complètement différent d'aujourd'hui. C'était un festival international qui recevait des noms incroyables. Je me souviens de Snoop Dogg, de Laurent Garnier, de Stevie Wonder, enfin, c'était assez fou et ça, toute la famille était content, on trouvait toujours un artiste à aller voir. C'était beaucoup moins franco-français.
On est d'accord, ça s'appelle le Printemps de Bourges.
C'était le Printemps de Bourges.
C'était le Printemps de
Bourges. Toujours, mais
et ça existe toujours.
Ça existe toujours. C'est devenu un festival plus de professionnels parce qu'il arrive assez tôt dans l'année.
D'accord.
Et sinon d'artistes vraiment franco-français, de variété, mais il y a aussi beaucoup de découvertes. Un tremplin qui s'appelle les Inouïs. En tout cas, voilà, dans cette ville, je m'ennuyais beaucoup. Pourtant, c'est une ville assez sympa, mais je rêvais d'évasion. Et je sais qu'une semaine par an, d'ailleurs quelques semaines avant que ça ouvre, on commence à voir arriver du monde.
Ça
se préparait, vraiment. Une effervescence assez folle. Plein de gens qui erraient dans nos vies, dans nos rues, assez calmes d'habitude. Et ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose à faire là-dedans.
Et du coup, c'était vraiment un truc de famille, quoi, d'aller au Printemps de Bourges.
Oui, ouais, complètement. Ouais. La ville change du tout au tout pendant le Printemps de Bourges. Je crois qu'il y a 80 000 habitants et tout d'un coup, on est à plusieurs centaines de milliers. Ouais. C'est dans la rue, c'est dans les salles, c'est partout. Et ouais, à l'époque, ça réunissait toute la famille. Il y avait tous les styles.
Oui. Et toi, du coup, ado, c'était un peu aussi ton premier festival où t'allais solo avec tes copains, j'imagine ?
Ouais, complètement. Ouais.
T'as vu qui, par exemple, qui t'a marqué ado, où tu t'es dit, ça tue. Peut-être tes souvenirs même de musique adolescent, tes premiers trucs que tu kiffais vraiment toi, quoi.
Je me souviens, c'est un peu... Ouais, c'est Étienne de Crécy, je pense, qui m'a... Okay. C'était et à la fois la musique que j'écoutais avec mes potes, on adorait la musique des clips du dimanche soir très tard, quoi. R, Étienne de Crécy, Aphex Twin... Et c'était la première fois que j'arrivais à voir quelqu'un que j'avais vu à la télé.
Ouais.
Et qui en plus ramenait scéniquement quelque chose d'intéressant.
C'était le fameux live...
Le Cube.
Le Cube, ouais. Okay. Qui est un truc assez... je vois Clément qui fait...
Iconique.
Ok, c'est quoi?
j'ai pas entendu parler, mais vas-y.
En gros, c'est Étienne de Crécy qui est tout seul derrière ses machines et je sais pas d'ailleurs si j'allais dire ses platines, mais parce que des formations professionnelles, mais derrière ses machines. Et en fait, il y a une espèce de cube en LED, je sais pas exactement.
Non, pas du tout, parce que la LED, c'est arrivé vraiment plus tard. Bien plus tard. Okay. Il était au milieu d'un échafaudage qui était recouvert de tulle, donc du tissu semi-transparent. Il y avait de la vidéoprojection dessus qui recréait des effets de trois dimensions. Et c'était vraiment, pour l'époque, avant-gardiste. Ouais. Quoi.
Ok, trop bien. Bon, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais concernant ton père. C'est quoi, du coup ? C'est pas tellement la musique de Gainsbourg, c'est plus, en fait, ce que Gainsbourg évoquait pour ton père, c'est-à-dire une sorte de fascination ou vraiment l'importance qu'il avait pour ton père. C'est ça qui t'a marqué ?
Ouais, c'est possible. C'est possible, le fait de pouvoir sortir de son quotidien, le fait de pouvoir s'évader grâce à la musique. C'est vrai, vraiment un souvenir ancré que j'ai continué peut-être à perdurer avec mes potes. Après, on s'est fasciné pour la musique funk. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'était pas du tout de notre génération et ce qu'écoutaient les gamins de notre âge. Il y avait très peu de... Je sais pas, on n'aimait pas forcément la radio, on n'aimait pas suivre ce qu'écoutaient les autres. Donc on allait dans notre petit disquaire, on allait dans des espèces de petits clubs où on montait sur notre âge pour... pas pour sortir, mais pour écouter de la musique.
Ouais.
Et voilà, on s'est un peu enfermé dans une bulle comme ça avec deux copains à découvrir ce qui se faisait hors Bourges. Parce qu'il ne se faisait pas grand-chose.
Alors moi, j'ai lu dans des interviews que tu as commencé très jeune, notamment dans l'événementiel, en grugeant un peu sur tes conventions de stage, genre sur ton âge, que tu avais commencé vers même 14 ans. Quoi. Du coup, ça m'intéresse de savoir, justement, tu parlais du fait que Bourges t'a un peu éveillé à ce sentiment de te dire « peut-être je vais travailler là-dedans ». Du coup... Tu travaillais dans quoi à 14 ans ? Sur quoi tu grugeais les conventions de stage ? C'était quoi tes...
En fait, le coup de foot que j'ai eu pour la lumière, parce que pour la musique, ça s'était déjà acté depuis longtemps, c'était mon meilleur ami à l'époque à Bourges qui était DJ. Et c'était pas du tout répandu de vouloir être DJ à l'époque. Ouais. On était en, je sais pas, 97, 98. Ouais. Et il devait racheter des cellules pour ses platines. Donc on est parti dans un tout petit shop de sono, qui avait un petit showroom, une petite salle toute noire avec quelques projecteurs de lumière. Et il suffisait juste d'appuyer sur play, une musique partait. Il y avait un petit show lumière qui paraîtrait complètement ridicule maintenant, mais qui m'a fasciné. Et j'ai eu un espèce de déclic sur le fait de pouvoir allier un métier créatif. Enfin, créatif, je ne savais pas trop encore à l'époque, mais qui pouvait s'allier avec la musique. Je me suis renseigné sur comment ça marchait, ce qui était possible de faire en termes d'études. J'ai absolument rien trouvé. Donc, il était temps, je crois que c'était en troisième, donc c'était un peu l'heure du stage de
fin de collège.
Ouais, c'est ça. Et quelques semaines avant, je voulais encore, je crois, être cuisinier. Donc, j'avais déjà un stage de signer. J'ai tout annulé pour le faire dans cette petite entreprise, quoi. Et j'ai adoré le fait de travailler là-dedans, d'aller dans des... Je pense qu'on faisait des mariages, des conventions d'entreprise à l'époque. Et suite à ça, j'ai été complètement obsédé. Donc, vu que j'aimais pas trop l'école, je me suis inventé des conventions de stage pour continuer à faire
j'adore.
Ça.
J'adore. Déjà voilà, extrêmement déterminé à 15 piges, quoi.
Ouais, complètement. J'ai complètement fait l'école buissonnière pour en fait aller travailler, ce qui n'était pas du tout légal.
Dès le lycée, en fait, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ok, ah ouais, c'est ultra déterminé.
Ouais. Et ensuite, j'étais complètement obstiné à faire ça. Je me suis renseigné. Il y a eu quelques écoles qui proposaient des formations pour aller dans le théâtre. Il y en avait une notamment à Bagnolet qui existe toujours, qui m'a refusé.
D'accord.
Qui m'a proposé il y a 2 ans d'être intervenant, ce qui m'a fait assez rigoler. Mais donc voilà, vu que j'étais encore un peu jeune, j'ai dû continuer dans les études d'automatisme industriel. C'était ce qui se rapprochait le plus pour patienter, d'avoir 18 ans, de pouvoir travailler. Donc j'ai fait un apprentissage et ensuite j'ai vraiment voulu continuer à travailler dans le spectacle. La seule opportunité, c'était au Club Med où j'ai passé 1 an.
J'avais lu ça aussi, voilà. ça m'intéressait de savoir à quoi ressemblait le Club Med.
Et j'ai trouvé une offre d'emploi d'éclairagiste où je me retrouvais tout de suite derrière les commandes et j'ai trouvé ça...
T'as quel âge à cette époque ?
J'ai vraiment 18 ans.
Ouais. 18 ans, ok.
Premier job, quoi.
Ouais.
Donc je suis parti un an et demi, c'était pas forcément hyper... hyper intéressant. En plus, je me retrouvais tout seul à devoir apprendre le métier tout seul, ce qui n'est pas forcément une bonne chose.
Mmh. Donc, j'imagine, ta console, tes projos.
C'est
et
ça,
après,
et tous les soirs, il fallait éclairer les collègues qui faisaient n'importe quoi devant, les vacanciers. J'ai vite compris que j'allais tourner en rond. Et à partir de là, j'ai découvert Internet. Vraiment,
C'était l'époque des débuts d'Internet aussi, non ?
Ouais, c'est ça. Enfin, le moment où on avait vraiment accès.
Ouais, c'est ça.
Et il y avait une radio que j'adorais quand je montais à Paris avec mes copains. C'était Radio FG. Donc j'ai été sur leur site pour essayer d'écouter un peu de musique. Je suis tombé sur la biographie des DJ qui avaient des résidences à Radio FG. Et je suis tombé sur quelqu'un qui s'appelle Eric Kaufmann, qui était le DJ des soirées disco au Queen. Tous les lundis soirs, c'était un truc assez énorme dans Paris. J'ai lu sa bio, il disait qu'il avait commencé au Club Med et voilà.
T'as connecté ?
Tout à fait innocemment, j'ai envoyé un email, chose qu'on n'oserait peut-être pas faire aujourd'hui, où il m'a tout de suite répondu qu'il cherchait quelqu'un pour remplacer celui qui avait ouvert le Queen peut-être 15 ans avant, que cette place allait se libérer le lundi d'après.
Donc le Queen, pour nos auditeurs et auditrices, c'est un club sur les Champs-Élysées qui est assez mythique à cette époque-là, quoi.
Ah, complètement, qui était ouvert 7 jours sur 7 depuis 1992.
Ouais, voilà ça.
Donc, quelques jours après, je monte un lundi soir à Paris, il y a une queue énorme devant les Champs-Élysées, on me fait rentrer, on me fait faire un essai, voilà, on me laisse 2 boutons, voir si j'ai le tempo, si je connais la musique. Ça dure 1 heure et je rentre chez moi, le lendemain, il m'appelle pour me proposer un CDI. Donc ça reste une discothèque, mais c'est hyper intéressant techniquement, à l'époque c'est un... Ça a beau être une discothèque, c'est technologiquement parlant, c'est fou. Et j'y reste 4 ans, voilà. À faire de la lumière tous les soirs pour les plus grands DJ du monde.
Donc là, déjà, est-ce que là, tu es déjà en interaction avec ces gens-là ou tu es assez libre finalement dans ce que tu fais
Ouais, je suis complètement en interaction. Et puis, ça me fait plaisir de savoir que des DJ viennent en étant au courant qu'ils vont avoir un show lumière vraiment marqué pour la musique. Moi, ça me permet et de continuer à écouter de la musique et d'apprendre vraiment le métier à avoir une console lumière entre les mains à peu près 8 heures par jour. Quoi.
Ouais.
C'est
tous les jours ?
Je suis 5 à 6 jours par semaine, 6 soirs. Ouais.
Et puis la nuit, quoi,
nuit,
surtout.
La nuit, c'est ça.
Ouais, j'imagine, c'est assez drainant du coup comme rythme au quotidien de faire
C'était intense,
nuit.
J'ai mis vraiment longtemps à m'en sortir, mais c'est moi qui ai compris qu'il fallait que j'en sorte parce que c'était pas forcément valorisant. Et à l'époque, les clubs, maintenant tout le monde est tourné vers l'artiste, quoi. C'est ça que j'aime dans le spectacle. Là, c'était un peu pisser dans un violon, entre guillemets.
Après, ce qui peut être aussi un truc chouette dans le club, c'est que le DJ soit pas forcément au centre de l'attention et que les gens s'amusent entre eux, quoi.
Ouais, bien sûr.
Tu nous as dit que les Chemical Brothers avaient une importance particulière dans ta carrière. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer pourquoi ? Parce que c'est le premier choix ouais. de tes morceaux.
C'est surtout la, le lien qu'ils ont avec le côté créatif et le fait qu'ils ne veuillent pas être au milieu de l'attention. Donc les Comical Brothers, ils sont deux, ils sont au milieu de leur machine, mais ils ont toujours eu un dispositif scénique grandiose et avant-gardiste. Donc juste après avoir quitté le Queen, j'ai travaillé pas mal d'années dans l'événementiel parce que c'était le seul moyen de garder un rapport à la lumière, mais tout en m'écartant de la musique. C'était pas un choix, c'était que le live, les concerts, c'était difficile d'accès, quoi. Ouais. Donc je faisais un peu de tout, de la mode, de la politique, des conventions, et parfois je travaillais dans les festivals de musique, ce qui m'y rapprochait, mais pas forcément du bon côté, c'était plutôt pour éclairer les arbres, enfin voilà, tout ce qui se faisait. Okay. Voilà.
Oui, les à côté, quoi, oui, les à côté
pense,
de la scène.
On n'y pense pas, mais il y a aussi de la scène autour des scènes.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'était, je ne sais plus, en 2010 ou dans 2011, j'étais au Paléo Festival, donc en Suisse. Ouais. Et là, les Comical Brothers étaient invités ce soir-là. Et j'ai pris une énorme claque. C'était le début des écrans LED ou vraiment de la scénographie. Sauf qu'eux avaient poussé le dispositif bien plus loin que ça, qu'ils ont gardé d'ailleurs 15 ans après, c'est d'avoir un écran LED avec énormément de lumière derrière, donc par transparence, ils arrivent à interagir entre la lumière et la vidéo. Mm-hmm. Et voilà, j'étais censé travailler ce soir-là, je me suis assis dans l'herbe et j'ai pris une claque pendant une heure, tout simplement. Voilà.
Ok.
Bah, je te propose qu'on écoute le morceau que tu as choisi.
C'est le premier choix de Pierre-Claude, c'est Saturate de The Comical Brothers. Et donc c'est un peu une de tes premières grosses claques de live, on peut dire ça ? Ouais.
Ah, on peut complètement le dire. Et puis le fait de réaliser qu'il y avait quelque chose à faire.
Ouais.
Oui, c'est vraiment... Là, tu vois quelque chose qui te motive vraiment profondément, quoi.
Ouais, qui sort de l'ordinaire, qu'on arrête d'éclairer vraiment les artistes, qu'on puisse proposer un autre format, qu'on regarde vraiment un ensemble et pas l'artiste bouger sur scène, quoi. Que ce soit un vrai spectacle sans lumière, quoi.
Donc c'est le côté créatif, là, qui te...
Ouais.
Qui te capte, quoi.
Mm-hmm, okay. Complètement.
Et du coup, si j'ai bien fait mes devoirs, tu rencontres après coup Franz et Fritz, qui sont deux mecs qui créent une agence un peu de CNO, de live et tout, et de light. Et donc toi, t'arrives un peu dans ce duo pour en faire un trio. Et vous commencez ensemble à bosser justement plus dans le live et dans la musique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, cette rencontre ? Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est des gars que tu connais depuis longtemps et que vous vous mettez à travailler ensemble ?
Non, c'est complètement hasard. Là, on revient en 2012 ou 2013 et c'est un peu une période charnière dans la scénographie, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent.
Oui, d'ailleurs, je voulais préciser, qu'est-ce qu'un écran LED ? C'est un écran vidéo, voilà.
C'est un écran vidéo, mais ça peut être aussi de la lumière à partir de la LED. C'est plus des lampes, c'est plutôt électronique. Et
voilà. Du coup, ouais, tu peux le programmer, quoi.
Voilà, exactement. Et donc, grâce à tous ces outils et au fait que ça devienne beaucoup plus accessible pour les groupes, de plus en plus de groupes de musique veulent avoir leur propre identité. Je pense qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui ont...
C'est l'époque, ouais.
Ouais, on jouait un rôle là-dedans, c'est que
l'importance de montrer du visuel et qu'il soit justement original.
Exactement, et en une photo sur Instagram, comprendre de quel groupe on parle, quoi.
Ouais.
Donc, je me retrouve à... Je suis embauché au Peacock Festival, la première édition à Paris. Et à cette époque-là, il y a deux scènes, une extérieure et une intérieure. Et ils ont pris deux scénographes pour chaque scène. Et chacun d'eux a besoin d'un assistant. Donc, je suis l'assistant d'un d'entre eux. Et là, on a un coup de foudre professionnel. Moi, j'adore. Je vois deux jeunes... hyper talentueux, à qui on fait confiance, et voilà, on se lie d'amitié, et quelques jours plus tard, ils me proposent de finir une des tournées de, pour laquelle ils ont fait la scénographie, c'était Rhône à l'époque, sa toute première tournée.
Okay.
Donc me voilà parti en tournée sur les routes de France pour un artiste que j'adore, voilà, qui a déjà une grosse identité visuelle, qui s'intéresse beaucoup à ça. Donc là, je suis vraiment comme un cancan pâte, quoi. Je me régale. Et quelques semaines après ça, ils ont le retour de Geza Felstein, qui est déjà en tournée, mais en fait, qui a connu un succès hyper rapide. Donc, qui est parti quasiment de rien en mode DJ sur une scène noire à devoir avoir une scénographie, une grosse identité visuelle. Donc voilà, ils me balancent sur la route.
Ils te mettent donc là l'idée, ils te disent voilà, il y a Geza Felstein qui veut qu'on s'occupe de sa
de sa DA,
en tout cas sur scène.
Ouais.
Du coup, t'es bombardé dessus, vous travaillez ensemble.
On travaille ensemble. Moi, je m'occupe plutôt de la partie synchro musique vidéo. Ça, c'est mon truc, musique vidéo lumière. C'est que eux s'occupent plutôt de la partie scénographie, le mobilier, voilà, où placer les lumières. Moi, je reçois la session live de l'artiste, donc vraiment sa musique.
Okay.
Et je m'occupe de synchroniser la lumière dessus et la vidéo. Ce qui se passera à tel moment, voilà, ça me prend deux semaines. J'ai pas vraiment l'habitude de ça à l'époque. Okay. Et il faut tout de suite... on fait un Olympia dans la foulée. Et ensuite, on part en tour du monde pour deux ans. Voilà.
Okay.
Ça commence petit et on finit à Coachella un an et demi après. Et voilà.
Bah typiquement, alors du coup, c'est peut-être, je me dis que ça peut être une bonne idée de partir là de l'exemple par exemple que t'as avec Geza Felstein, quand tu reçois sa musique, du coup, qu'est-ce qui drive un petit peu la création à ce moment-là, tu vois, est-ce que c'est, je sais pas, l'émotion, la performance, la mise en avant de l'artiste? Alors là, j'imagine que ça va être encore plus exigeant sur un artiste électro comme Geza Felstein, parce que c'est pas des musiciens qui bougent, j'imagine, sur une scène, donc il y a vraiment un truc de visuel hyper important. Comment ça part de quoi? Même, j'imagine qu'il y a aussi des contraintes budgétaires, enfin, voilà, comment ça se passe?
Pour n'importe quel artiste, quand il fait appel à nous, il faut déjà essayer de comprendre son univers, un peu parler avec lui, se renseigner sur sa musique, évidemment, donc son univers visuel, si ça va être gay, dramatique, voilà, ce genre de choses. J'ai envie de dire que le plus important, c'est plutôt comprendre les contraintes financières et logistiques. C'est quelque chose où les producteurs sont pas hyper transparents avec nous, ils nous disent pas le budget, parfois ils le connaissent même pas eux-mêmes avant que ça commence. Donc il faut comprendre l'importance qu'aura cet artiste, dans quel genre de salle il jouera, s'il va faire une tournée de club, de smack, de zénith, en festival, savoir quel slot il aura, s'il sera tête d'affiche, s'il jouera la journée, s'il jouera de nuit, de jour, tout ça c'est important. Savoir l'équipe qu'on peut avoir, combien de techniciens, si ça voyagera en bus, voilà, le nombre de camions, etc.
Donc, ouais, c'est déjà beaucoup de contraintes, on va dire, très techniques.
Et financières.
Et financières, voilà. Ouais, avant de commencer.
Voilà, je pense qu'il faut mieux s'intéresser d'abord à ça plutôt qu'à l'esthétique, parce qu'on peut vite s'emballer et être déçu.
Ça, c'est sûr. Et puis, j'imagine que tu as tout de suite envie de voir... Enfin, si tu t'écoutais que les producteurs ou les artistes, tout de suite, ça serait le monde, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu fais un Stade de France à chaque fois. Ouais.
Bien sûr. Et
coaché là, à chaque fois.
Ouais. Il y a cette nouvelle mode où, justement, il faut que ça tape fort tout de suite, que ce soit grandiose, pour qu'ils aient des images, pour qu'ils puissent les diffuser, pour que ça tente
Mais
les promoteurs de les booker.
Euros.
Voilà. Et ensuite, ça va descendre crescendo.
Ouais. Ouais, okay.
Et à partir de ça, du coup, quand vous avez réussi plus ou moins à cibler, qu'est-ce que tu recherches, tu sais, dans la création? C'est-à-dire, est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est... je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire ressentir au public? Est-ce que ça varie peut-être d'un artiste à l'autre aussi, j'imagine?
Bah, j'ai envie de dire, moi, ma façon de fonctionner, j'ai envie qu'il y ait quelque chose de tout de suite identifiable, que ce soit aussi beau à regarder, allumé qu'éteint. d'essayer de cacher la technique un maximum, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. La technique, pour moi, c'est juste un outil.
Qu'est-ce que tu appelles cacher la technique ?
Cacher les projecteurs, par exemple, que même qu'un écran vidéo fasse partie du décor, mais sans montrer que ce soit un écran vidéo. Ça peut être par du matériau, par des drapés à cacher, enfin n'importe quoi, mais j'aime pas trop être dans la démonstration. Voilà. Ensuite, la différence vraiment entre un artiste électronique et rock, c'est que l'artiste électronique va être le centre d'un tout. Il va faire partie de la scénographie, il va pas bouger. Le public va regarder un spectacle en 16/9, quoi. Il va regarder un tout. Alors que le groupe rock, c'est souvent des gens que les gens ont envie de voir, qu'on a envie de voir performer. On va les suivre. Et là, pour le coup, les visuels, la vidéo, c'est quelque chose qui doit pas prendre le dessus, qui est là pour les entourer, mais
oui,
pour les appuyer, quoi.
Voilà.
Justement, quelle importance a le performer, tu vois, effectivement, j'imagine que même entre différents groupes de rock, par exemple, c'est pas les mêmes personnalités qui s'expriment. Du coup, est-ce que pour certains, tu dis, tiens, il va falloir justement envoyer la patate au niveau du show parce que il est peut-être un tout petit peu plus réservé. Est-ce qu'à l'inverse, tiens, je compense parce que il bouge. On va dire que le chanteur ou les musiciens, ils bougent beaucoup, donc en fait.
Ça, je pense que c'est pas à moi de le définir. Ça dépend vraiment des égos des uns des autres. Il y a vraiment des groupes et je pense surtout à la variété où ils ont envie d'être vus, ils ont envie d'être le centre d'intérêt du spectacle. Et d'autres qui sont beaucoup plus humbles, qui veulent faire partie d'un tout, qui veulent s'intégrer au décor. Je pense par exemple à Tame Impala, qui est un spectacle grandiose et il est à peine visible. Voilà, il est vraiment entouré de lumière, de vidéo. Il veut que sa silhouette, que son groupe fasse partie de quelque chose de beau. Et pas d'avoir un artiste mis en avant. Quoi.
Justement, quelle part ont les artistes, quelle liberté tu as et quelle interaction tu as avec les artistes, justement, à quel point ils interviennent dans le processus créatif ?
Ça dépend encore des artistes, mais j'essaie de me renseigner avec les artistes avec lesquels je vais travailler.
D'accord.
Il faut vraiment que j'aime leur musique, sinon je pense que j'y arriverai pas. Mais je pense pas qu'il soit possible de faire un beau concert si l'artiste s'intéresse pas à sa propre esthétique. Et quand c'est arrivé, j'ai été déçu. Ils ont été déçus parce qu'on ne communique pas, on peut pas se comprendre l'un et l'autre. Mais les spectacles les plus intéressants que j'ai faits, j'étais en interaction avec eux constamment. Je pense à Phoenix qui travaillent autant sur le visuel que leur musique. C'est hyper important pour eux à quoi va ressembler leur concert, quoi.
On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Est-ce qu'on passe au son d'après, Clément ?
Eh ben oui, faisons ça. Eh bien, le son d'après, c'est à mon tour de vous parler d'un artiste. Moi, je suis, comme je te le disais, je pense, hors antenne, je suis particulièrement content que tu sois là aujourd'hui parce que on parle de concert, on parle de performance live. Ceux qui me suivent un peu sur Instagram comprendront pourquoi. Effectivement, mon compte perso ressemble de loin plus à un média de compte-rendu de concert qu'à la vie de Clément Gonzalez. Et il est vrai que mon histoire d'amour avec les concerts est désormais longue et assez riche. Elle commence quand j'étais petit avec Henri Dess à l'Olympia. Puis elle s'est prolongée au collège où je suis allé voir les Red Hot Chili Peppers, Coldplay, les Rolling Stones, tout ça dans un stade de France en fusion, etc. Et puis elle s'est clairement même accélérée à partir de l'adolescence. Rock, rap, électro, folk, enfin beaucoup de genres y sont passés. Des concerts les plus anodins et sans saveur, parce que ça arrive, oui, parfois, aux concerts les plus mythiques. Moi, j'ai des souvenirs encore vraiment complètement hypnotisés par le Kanye West, Jay-Z et leur tournée Watch the Throne, ou par exemple, là, plus récemment, PNL, quand ils étaient à Bercy, c'était fou. Bref, et j'ai même eu la chance de vivre évidemment des concerts dans le public et même parfois dans les coulisses grâce à Deluxe et le Escrew que j'ai pu suivre du coup pour avoir fait leur clip. Bref, puis en réfléchissant du coup aux souvenirs marquants que j'avais eu en concert, m'est apparu très rapidement en fait le moment où j'ai vraiment pris conscience de la puissance de la mise en lumière d'un show. Ce truc qui fait que le spectacle passe un peu dans une autre sphère. Et alors moi, on est exactement le 23 février 2013. Je suis au Zénith de Paris pour aller voir Vitalik en concert. Vitalik, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, figure importante de la musique électronique française depuis 2005. Le concert se passe très bien et je me prends globalement un bon souffle de musique électro jusqu'à ce qu'arrive le morceau Stamina. Et là, c'est vraiment l'explosion d'immenses spots de lumière blanche accrochée au plafond qui s'allume et qui commence à quadriller un peu la salle, comme ça dans un ballet lumineux au rythme des grosses basses du morceau. Moi, je suis totalement transporté par cette vision et je vous propose de vous faire du coup une petite idée de la scène en écoutant le morceau ensemble. Fight, I show you bite. On your flight, I show you sight. What it takes is up in the stakes. On my plate, I give you light. On my beats, on my treats. Stamp and stomping, stamina. Stamp and stomping, stamina. Stamina. C'était le morceau Stamina de Vitalik. Bon, je me tourne vers toi, Pierre. Alors, tu as l'air d'être parfaitement au courant de cette scéno, donc j'ai raconté un peu.
Je peux que acquiescer. D'ailleurs, je pense qu'un quart des vues sur YouTube de ce concert viennent de moi. je l'ai regardé en boucle. Et on est exactement dans cette période dont je parlais avant, de 2012-2013, où il y a eu cette révolution de scénique. Et pour la petite anecdote, l'éclairagiste de Vitalik est mon meilleur ami.
Ah, trop marrant.
D'accord, oui, effectivement.
Ils sont devenus hyper proches et pour montrer à quel point la lumière est importante pour lui, Vitalik, quand il part en grosse tournée, il a une équipe énorme, bus, camion, tour manager, ingénieur du son, etc. Mais la plupart du temps, il fait des DJ sets partout dans le monde. Et quand il a droit qu'à une personne, c'est pas le tour manager, c'est pas l'ingénieur du son, c'est son éclairagiste. Parce que c'est ça qui veut défendre le plus.
Franchement, moi je vois aussi la différence quand t'as des bonnes lights, ça change tout quoi.
Ouais, même pour lui sur scène, je pense qu'il est complètement dans l'ambiance. Et voilà.
Oui, bah c'est ça qui fait, je pense, moi de ce que je retiens de ce concert-là, c'est évidemment ça qui participe à 80% en plus de la musique. Mais ça, on veut dire que le taf pour lui, il a déjà été fait. En amont, quoi.
Oui, bien sûr.
Parce que ces morceaux sont préparés pour mettre ce genre de grande claque musicale pendant le concert. Mais c'est vrai que l'étape d'après, c'est justement, c'est comment la lumière, parce que lui, en tant que DJ, j'imagine que c'est pas lui qui bouge sur scène. Donc c'est vraiment, ça va être, c'est ça, c'est ces écrans et c'est cette lumière.
Oui, complètement. Mais il est vraiment très attentif et excellent choix.
Ouais. Mais c'est marrant, tu disais, ah oui, c'est la scéno de 2013, c'est une de ses meilleures scénos. Et du coup, ça m'a fait rire, j'étais là, c'est comme un onologue, tu sais, genre, tu m'as dit, ouais, ce vin, ce Rhône.
Bon
ouais, c'est ça.
Et ça me fait penser à quel point tu écoutes de la musique, mais surtout à quel point tu te rends à des concerts. Où tu vas chercher de l'inspiration peut-être ou pas d'ailleurs, mais
je me rends plus à des concerts parce que j'aime la musique.
Ouais.
C'est pas forcément source d'inspiration. Après, quand je prépare une nouvelle tournée, il m'arrive de douter. J'adore aller voir énormément de concerts. Ça peut soit me montrer que j'ai raison de douter parce que ce que je suis en train de faire est nul, soit me dire ouais, c'est peut-être pas si mal ce que je suis en train de faire. Mais en règle générale, je juge pas la lumière. Je sais juste qu'en tant que qu'amoureux de musique et de concert, c'est quelque chose qui peut vraiment m'amener dans l'univers de l'artiste. Où, si la lumière est moins bien, je m'en fiche un peu, mais ça peut vraiment me faire entrer dedans et me montrer que j'ai raison de faire ce métier-là qui a petite importance.
Et tu te rappelles, c'est quoi le concert le plus dingue que tu as vu, du coup, en dehors de tes propres créations? Tu as mis peut-être la plus grande claque visuelle ou...
Ouais, je pense que je dirais Tamim Pala, parce que c'est vraiment juste. C'est vraiment juste et c'est ce que j'aime. Il n'y a pas forcément trop d'artifices. Il peut faire des choses juste en lumière, sans vidéo, qui sont vraiment incroyables, qui amène à un état de transe comme sa musique. C'est absolument brillant, bien réalisé.
Trop bien. C'est un copain à toi aussi qui fait Tamim Pala ou pas?
Non, non. Non. Et j'espère qu'on va pas le rester parce que c'est vraiment l'artiste avec qui j'aimerais travailler un jour.
Ah, ok.
Et bah, c'est bien, on avait
cette question.
On avait cette question-là, ça nous intéressait. Mais je suis d'accord, moi je me souviens d'avoir vu Tamim Pala, bah, je pense que c'était à Will of Green, du coup, il y a quelques années. Et bon, déjà, j'aime bien la musique de Tamim Pala, mais il y a une. C'est vrai qu'il d'ailleurs, je trouve une super belle poésie.
Ouais.
Et c'est vrai que ça m'avait intrigué à quel point, effectivement, ils se mettent pas en avant. C'est ouais, vraiment une sorte de. Ouais, de visuel global. Alors ça, que ouais. C'est vrai qu'ils ont. Bah, c'est comme l'image d'un groupe de rock et qu'on a souvent, en tout cas, moi pour en avoir vu beaucoup aussi des groupes de rock sur scène, c'est souvent. Voilà, c'est très incarné quoi.
Non, ils sont intégrés à la scénographie, là, ils en font partie quoi.
Mmh. Ouais. Mmh,
et je sais que Kevin Parker est omnubilé par ça. Là. La scénographie, ça lui importe beaucoup. Il y passe des mois et des mois avec son équipe à travailler là-dessus et c'est aussi son capital qui va mettre en jeu parce qu'il met un investissement énorme là-dedans parce qu'il préfère tourner beaucoup et peut-être gagner moins, mais que ce soit beau, quoi.
Et pour revenir à ton travail, toi, est-ce que, à force, bah voilà, ça fait quand même un certain moment que t'es dans ce milieu-là, est-ce que t'as des habitudes de mise en scène, des trucs un peu... je sais pas, signature, j'ai envie
de
dire.
Des marottes, oui, voilà.
Ouais. Ou est-ce que chaque show est unique? Enfin, chaque nouvelle artiste avec qui tu travailles, quoi.
Moi, je dirais que ma signature, c'est pas forcément à quoi la scénographie va ressembler, mais c'est plutôt de vivre le show. C'est la dynamique, le travail de la lumière et de la vidéo sur la musique et pas en foutre plein la gueule juste sur une image, quoi. C'est de travailler vraiment la lumière sur la musique pendant
toute la durée
du show. Tout à l'heure,
tu parlais de la synchro.
Ouais,
c'est ça, la synchro. Ouais. Quoi. C'est que quand il y a une basse qui tape, il faut qu'il y ait une light particulière qui tape au
exactement.
Bon moment. Quoi.
Okay. Voilà. Donc, il faut réussir à allier à ce que l'identité visuelle soit chouette. Mais je préfère... c'est quand même du spectacle vivant. Donc, je préfère que ce soit agréable à regarder, à vraiment être présent au concert plutôt qu'en foutre plein la gueule sur Instagram.
Laisse-les mort un peu, tu vois.
Exactement. Ouais. Non, mais le minimalisme, ça m'a toujours, okay. Ça m'a toujours plu. Voilà, faut que les visuels aient du sens. On se sert souvent des écrans vidéo dans mes shows comme lumière, juste pour un aplat de couleurs, un dégradé plus que... un fond d'écran Windows qui va tourner pendant 3 minutes. Quoi.
Mais j'allais te demander justement, est-ce que tu as un rapport particulier à la vidéo, toi? Est-ce que tu fais du design de vidéo ou toi, c'est vraiment lumière uniquement?
Moi, c'est plus la lumière qui me parle, mais la vidéo, c'est vraiment pas inintéressant pour allier ça au décor, justement. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Gesaffelstein. C'est qu'on se servait d'écrans vidéo qui coûtaient très cher à l'époque, compliqués à prendre en tournée avec nous, et on s'en servait uniquement pour envoyer des flashs blancs, voilà, rien d'autre.
Okay.
On prenait des techniciens avec nous en tournée qui ne comprenaient pas pourquoi on ne s'en servait pas plus. Mais vous vous rendez compte du prix que ça coûte et vous allez l'utiliser que quelques secondes ou minutes dans le show. Ouais, mais c'était ça qui faisait la différence. Quoi. Avec Phoenix, c'est différent. Eux sont vraiment attachés à l'art visuel et ils ont beaucoup de références à... Voilà. Ils aiment poser des images sur leur musique, donc les écrans, pour ça aide beaucoup. Quoi.
Ça prend combien de temps en général une création, du coup, que pour un show, bah, on va dire pour un concert, parce que j'imagine qu'après, en fonction, on aura l'occasion, je pense, aussi de parler un petit peu de ce que tu fais à côté. Mais oui, pour une scénographie de concert, ça prend combien de temps?
Bon, je dirais que ça prend 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Les premières discussions, un groupe sait qu'il va tourner la saison d'après, donc on peut commencer à en parler, à avoir des idées. Mais le gros du travail, il faut que l'idée soit là 6 mois avant pour qu'il y ait le temps de booker des équipes, booker du matériel, voire de la construction, pour les tournées mondiales, prévoir le fret, etc. Donc 6 mois avant, ensuite fabriquer les visuels, programmer la lumière. Et le mois avant la première, là, on va commencer à se réunir pour être en résidence dans des salles.
Ouais, ok,
et...
c'est ce que je me demandais, s'il y avait des résidences, justement.
En règle générale, ils travaillent avec les musiciens et l'équipe sonore un mois avant et la lumière vidéo, on se retrouve 2 semaines avant la première.
Ok. C'est vraiment short en fait comme timing.
C'est short, journée. Mais tout est prêt d'avance. Moi, je travaille sur des logiciels qui simulent la vidéo, la lumière, les mouvements de décor. S'il faut, on sait exactement ce qui va se passer avant. Là, okay. C'est vraiment pour se rendre compte en vrai de
caler les trucs, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et au tout départ, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu parlais de j'ai pas le terme que tu as utilisé tout à l'heure, mais la setlist ou le même
la session live.
Mmh. Tu la reçois, t'es chez toi, tu l'écoutes, et là, il y a les idées qui t'apparaissent, tu les notes, et ensuite t'échanges avec le groupe là-dessus.
Ouais, c'est ça. On va, en règle générale, on doit caler la scénographie avant de recevoir cette fameuse session live, parce qu'on est plusieurs mois avant.
Ouais.
L'album n'est peut-être pas terminé, même pas écrit.
C'est fascinant, moi, je trouve.
Voilà.
C'est
mais
comment est-ce que t'arrives à caler une session? Enfin, comment t'arrives à caler des lights sur un truc que tu sais pas ce que c'est?
Bah pour des groupes qui ont déjà une discographie, on s'attend à ce que ça change pas drastiquement, mais pour des groupes en développement, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir entendre quelques
oui, c'est ça, par exemple. Mais j'imagine quand tu travailles avec Phoenix, ils ont déjà plusieurs albums, donc
qu'ils vont jouer des morceaux anciens. Voilà. Mais le plus gros de l'écriture lumière, ça arrive quelques semaines avant. Ça,
c'est un bon rush, quoi.
Ouais, exactement. On essaie d'avoir une identité par morceau, ça on peut l'anticiper avant, mais l'écriture vraiment de la dynamique, ça c'est en dernier, voilà.
Et tu dis « on », vous êtes plusieurs à bosser sur du design lumière ou...
Ouais, je parle de mes collègues, enfin de mes confrères et moi plutôt.
Okay.
Mais pour ce genre de tournée, ouais, je travaille quand même avec soit des programmeurs ou alors des graphistes vidéo, voilà.
La petite question qui me vient, mais à quel point, alors j'imagine que peut-être aussi en fonction des artistes américains ou français, ça varie, mais à quel point, par exemple, les paroles d'une chanson peuvent t'inspirer ou te faire, t'accompagner dans la création?
Moi, je dirais que c'est plus la musique que les paroles. Je suis pas hyper sensible aux paroles, mais plus à la vibe de la musique. Donc non, je dirais que...
Ok, voilà. Non, mais c'est...
On peut tout de suite sentir un mood... avec la musique.
Ouais, de fou. Ouais.
Oui, on parle souvent même d'ailleurs de musique et de couleurs, tu sais, d'une musique. Ouais. C'est vrai que je pense que ça, du coup, ça doit jouer. Enfin, oui, c'est ça, ça doit. Ça
ouais,
doit
complètement.
Jouer. Okay.
Non, et puis Gesaffelstein n'a pas forcément beaucoup de paroles et les Strokes et Phoenix, leurs paroles partent un peu souvent dans tous les sens.
Par exemple, je travaille avec. J'ai vu que tu avais travaillé avec Juliette Armanet, par exemple,
ouais.
Récemment. Voilà, c'était par exemple sur ce type d'artiste, ça m'intéresse. Ou tu as travaillé aussi avec Christine The Queens.
Ouais, par exemple, Juliette Armanet, on n'utilise pas de vidéo. Donc, traduire des moods en lumière, c'est différent de la vidéo.
Ouais.
Mais tout son album se faisait parler du feu. Donc là, ça nous a amené pas mal d'idées au niveau artifice qui sont assez évidentes et de couleurs, en l'occurrence. Ouais.
Est-ce qu'on passerait pas au son d'après?
Bah oui, faisons ça.
Allez. Alors, on va du coup passer à ta deuxième sélection. T'as décidé de ramener un morceau de Phoenix, et je pense qu'on va pouvoir parler d'eux un peu plus longuement, puisque en fait, Phoenix est un des groupes que t'as accompagné en tournée et qui est peut-être un peu game changer dans ta carrière. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, bah...
Par où commencer?
Ça fait combien de temps que tu travailles avec eux?
On s'est rencontrés en 2016. On était dans un avion de Paris pour l'Australie avec Gesaffelstein et notre toute petite équipe. Et on se retrouve dans le même vol que les Phoenix, dont tout le monde parle comme le groupe français dingue. Mm. Ça chuchote entre nous. Regarde, c'est les Phoenix. Voilà. On se retrouve en escale, je crois, à Singapour, où on a quelques heures. Et là, on tombe sur des mecs absolument charmants qui s'intéressent vraiment à nous. Donc, on est parti 3 semaines en tournée en Australie avec Gesaffelstein. Et les Phoenix étaient là. On a passé beaucoup de temps ensemble. Mm. J'ai vu qu'ils avaient une équipe complètement internationale, hyper professionnelle. Enfin, je me suis dit, voilà, j'ai envie un jour d'inclure une équipe comme ça, à la fois très humaine, très, très accueillante, très professionnelle. Je me suis dit, cette colonie de vacances, là, je veux la rejoindre. Ça a l'air génial. Et j'ai choisi ce morceau en particulier parce qu'il défendait cet album Bankrupt qui est... pour lequel j'ai été les voir en concert à Sydney. J'avoue que je connaissais pas très bien leur musique à part les quelques tubes, et j'ai pris pareil une énorme claque et visuelle et sonore pour ces mecs hyper humbles, hyper talentueux. Et je me suis dit un jour, je veux travailler pour eux, quoi.
Et ben, je pense que c'est un parfait lancement pour écouter le morceau de Phoenix, Bankrupt. C'était Bankrupt de Phoenix, le deuxième choix de notre invité Pierre-Claude. Tu nous disais que c'était la période où tu les rencontres. Et comment se crée du coup, après les avoir rencontrés, comment s'est créée vraiment la connexion et à quel moment tu as pu vraiment commencer à travailler avec eux ?
Donc là, on était en 2013. Mais voilà, donc ils défendaient cet album-là et on n'est pas vraiment resté en contact, mais on avait bien échangé pendant ce voyage en Australie. Et deux ans après, je reçois un message d'un des quatre qui me dit « Est-ce qu'on peut se voir ?» Voilà, je savais pourquoi. À l'époque, ils étaient en studio à la Gaîté Lyrique. Ils avaient écrit leur album « Tiamo » là-bas. Mm-hmm. Donc on s'est rencontrés. Ils m'ont proposé de faire leur future tournée. Ça m'a beaucoup stressé, beaucoup angoissé, mais j'ai dit oui. Et je me suis installé avec eux à la Gaîté Lyrique pour 3 mois pour créer le spectacle pendant qu'eux faisaient de la musique. Okay, j'étais dans un bureau à côté, on se croisait et on a créé ce spectacle où il y avait un miroir incliné de 8 tonnes au-dessus d'eux pendant 3 mois.
Ouais. je crois que cette scénographie, du coup, ça me dit quelque chose, ce que tu racontes sur le miroir. J'ai dû voir passer des images de concert et c'est vrai que c'était assez visuellement.
Ouais, c'était un vieux Trix du Crazy Horse des années 30, je crois, ou 20, où les danseuses performaient allongées avec un miroir incliné à 45 degrés au-dessus d'elles. Okay. Donc qui paraissait en lévitation. On l'a remis au goût du jour 80 ans après, où les Phoenix performaient sur un mur vidéo qui était au sol, du coup, un sol vidéo, avec un miroir incliné au-dessus d'eux qui pouvait reprojeter les visuels et voir les Phoenix jouer en lévitation. Voilà.
Trop bien.
Et ça, une idée comme ça, par exemple, comment elle te vient ou comment,
Alors pour le coup, c'était la leur. Ils m'ont appelé pour pouvoir la mettre la faire vivre, exactement. Et donc là, le but, c'était complètement de pouvoir éclairer quelque chose de pur, de cacher la technique, ce qui m'allait complètement. On a travaillé là-dessus pendant plusieurs mois. On l'a fait fabriquer en Belgique et on a fait la première, je crois, à Miami quelques mois ensuite. Et on est parti 3 ans, tour mondial avec...
C'est intéressant ce que tu racontais tout à l'heure sur d'habitude, c'est plus un mois de vraie résidence et tout. Et là, de pouvoir travailler, j'imagine, sur le long terme, ça change aussi, toi, le rapport que tu as à leur musique. J'imagine que du coup, tu devais écouter les trucs sur lesquels ils étaient en train de travailler aussi. Donc, ça doit être d'autant plus enrichissant, je pense, peut-être.
Ouais, complètement. Et ils avaient déjà une discographie de 5 albums avant. Ouais. Je crois que même à l'heure actuelle, j'ai 50 morceaux qui sont disponibles dans. dans ma console lumière et vidéo. S'ils veulent jouer un des 50 morceaux, ils en ont 70 en tout. Voilà, on peut en faire 50. Chaque
morceau. Ça veut dire que vous avez travaillé sur 50 morceaux et voilà. Vous avez une créa qui.
Exactement, il y a une identité visuelle pour chaque morceau.
Ouais, c'est impressionnant.
Voilà. Ils ont le noyau dur de morceaux qui peuvent jouer, mais ils ont envie parfois de se faire plaisir ou alors à la demande de public de faire tel morceau. Dans certains pays, il y a des tubes qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres. Voilà.
C'est trop marrant.
Ouais. C'est génial. Mais justement, je vais rebondir là-dessus. C'est quelle place tu laisses, du coup, enfin, tu laisses ou vous laissez avec l'artiste place à l'improvisation ? Parce que j'imagine que tout ça, c'est quand même des installations très précises, lumière, son et tout. Elle est où l'improvisation dans tout ça ?
Il y en a peu. En fait, ils ont un ordinateur qui tourne derrière, mais il joue absolument tout. Cet ordinateur, il sert juste à rendre disponibles les notes pour chaque synthétiseur à chaque fois qu'ils appellent un nouveau morceau. Les synthétiseurs appellent un nouveau son, mais ils vont jouer les notes eux-mêmes, quoi. Et moi, c'est pareil, ça m'envoie des infos chez moi pour la vidéo, pour la lumière. Donc, il y a très peu d'improvisation, à part pour certains morceaux acoustiques, par exemple, où pendant un quart d'heure, ils vont se faire un petit kiff entre eux. Et moi, ça me fait plaisir aussi.
Ou là, ils sont en mode bœuf, quoi.
Ouais, exactement.
Sur scène.
Ouais.
Ah ouais.
Et du coup, justement, toi, comment est-ce que tu mets en lumière justement un bœuf comme ça, ou c'est un peu à l'impro ?
C'est complètement à l'impro, mais ça me fait plaisir aussi. C'est un peu ce qui va se passer.
Tu vas au feeling en fonction de ce que tu as à dispo, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est pour Phoenix, mais c'est aussi le cas pour la plupart des artistes avec qui tu travailles, ce rapport à l'improvisation ?
Non, pas toujours. Dans la musique électronique, beaucoup. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est très écrit parce qu'il y a vraiment des effets visuels, tout tient là-dessus, mais d'autres, non. Ça va être une sorte de DJ set, on va les suivre. Et pour nous, c'est un peu frustrant parce que ça peut pas être parfait, évidemment. Mais ça laisse beaucoup plus de place au fun. Ouais.
Et qu'est-ce que tu préfères, toi ? Tu préfères justement quand tout est bien calé, ou est-ce que justement cette part d'improvisation, elle te...
Bah, j'aime bien quand tout est calé, mais il n'y a pas forcément de frustration ou de lassitude. Un groupe comme Phoenix va jouer dans des petites salles, dans des festivals énormes, dans des arénas la même semaine. Donc mon job, c'est de devoir faire en sorte que le show ressemble à la même chose dans des mini-clubs aux États-Unis comme dans un festival énorme le lendemain, quoi. Donc on se lasse pas de ça. Ouais.
Et justement, du coup, c'est quoi ton rapport au lieu ? Puisque tu parles de différentes salles, quand on regarde un petit peu ta carrière, t'as mis en lumière aussi bien des petites salles de concert jusqu'à, là, j'ai vu passer des images, je crois que c'est un concert avec Christine the Queens à la Tour Eiffel. Comment tu... Ouais, à quel point le lieu a une part importante dans ta créa ?
Moi, je sais que mes salles préférées, c'est ce qu'on appelle les clubs ou les vieux théâtres aux États-Unis ou en France, c'est les SMAC, enfin les capacités de 2-3 000 places, comme la Cigale, par exemple.
Ok.
C'est là qu'on peut exprimer le mieux la lumière, être subtil, être intimiste, ce qui n'est pas vraiment possible en festival. En festival, on a beaucoup de pollution visuelle autour, voilà, les stands de merguez qui vont être mal éclairés, qui vont se répercuter sur la grande scène. Ça, c'est assez dur de pouvoir être polyvalent et d'avoir le même résultat entre une petite salle, un festival, une arena. Voilà. Par exemple, faire une tournée de stade, ça m'intéresse absolument pas. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de vraiment intéressant à faire, de subtil ou de minimaliste, quoi.
Ouais, c'est quelque chose, par exemple, ça, du coup, tu refuserais plutôt.
Peut-être que j'accepterais. Ouais.
Mais ça serait pas ton plus grand kiff.
Ouais, les artistes que j'aime musicalement ont pas forcément leur place en stade.
Ouais.
D'accord.
Et tu parlais justement là de votre idée, enfin de l'idée de Phoenix avec ce miroir incliné. Moi, j'ai lu dans une autre interview que pour un live de Geza Felsheim, vous avez été inspiré par Anish Kapoor, qui est donc, pour les auditeurs et auditrices, qui est un artiste plasticien qu'on connaît notamment pour le Cloud Gate à Chicago, qu'on surnomme The Bean, qui est un peu l'espèce d'énorme miroir posé au milieu de Chicago, là, je pense. Peut-être tout le monde a l'image, non, t'as pas l'image, Clément.
Je pense l'avoir. Je vais faire une petite recherche et je vais faire. Ah oui, bien et sûr. Voilà. Mais là, l'image ne m'en revient pas, non.
Donc c'est vraiment un gros miroir posé. Enfin, c'est une espèce de forme de haricot posé au milieu de Chicago. Et donc, du coup, c'est surnommé The Bean. Et du coup, je me demandais s'il y avait d'autres formes d'art comme ça qui pouvaient t'inspirer dans ton travail, plastique ou autre, quoi.
Ouais, complètement. Donc, Geza Fulstein, il est connu pour sa musique très sombre, pour être le prince des ténèbres, je crois. Donc, avec lui, forcément, faut que ce soit sombre et intense. Et Anish Kapoor avait développé cette peinture plus noire que noire, donc qui absorbe absolument toute la lumière, qui s'appelle le Vanta Black, qui était destiné uniquement à ses œuvres à lui et à la NASA, je crois. Voilà.
Ah, ok.
Sauf que.
Et à Geza Fulstein.
Non, justement. Une société anglaise a réussi à développer quelque chose d'assez similaire dont on a eu le droit de se servir.
Ok.
Et qu'on a utilisé, oui, pour sa scénographie. Donc, c'est une peinture base de micro-particules de carbone. Enfin, c'est assez dingue qui recrée un trou noir même en plein jour. Quoi.
Oh, wow.
Donc, okay. On s'est retrouvé à mettre cet artiste en face d'une forme. Voilà, d'un trou noir sur scène. Okay. Et d'autres inspirations, je pense qu'on a tous l'amour pour James Turrell dans le métier, qui fait des œuvres entre couleurs et lumière absolument incroyables.
Okay. J'irai chercher, je connais pas, je pense.
Ouais, moi non plus, c'est pareil, ça m'intrigue.
Ouais, grave. Bah,
c'est un Américain qui fait depuis longtemps des œuvres, des pièces éclairées, enfin, c'est absolument incroyable, qui a acheté un volcan récemment où il vit à l'intérieur. Ok.
On l'adore.
Un peu fou, mais un génie, quoi.
Ah ouais, ça, c'est un génie.
Et moi, j'avais une question un peu anecdotique, mais je me suis posé la question, en fait, comme tu fais de la lumière dans ton travail, est-ce que c'est un truc qui est important, par exemple, chez toi? C'est vraiment anecdotique, mais je me suis dit, genre, tu sais, je sais pas, t'es peintre, tu peux faire de la peinture chez Watt, c'est un truc qui est facilement accessible, tu vois, les lumières, tout de suite, c'est plus compliqué. Du coup, je me disais, est-ce que aussi c'est chez toi, tu fais de la scéno un peu lumineuse?
Non, mais c'est vrai que je suis assez sensible à ça. C'est, ouais, comme dans un restaurant, je trouve que l'atmosphère est importante et...
Okay.
Chez moi aussi, voilà.
Okay, très bien.
Je me sens pas bien dans une pièce éclairée au néon blanc.
Ouais, je comprends. Moi, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont bien dans une pièce éclairée au néon. Mais je sais pas s'ils sont au courant que c'est à cause du néon qu'ils se sentent pas hyper bien, tu vois.
Non, je suis plutôt du genre à mettre plein de petites sources à droite à gauche que d'en avoir une forte au milieu, voilà.
Très bien. Bon, je pense qu'on peut passer au son d'après, Clément.
Tout à fait.
Ouais. Eh bien, de mon côté, Pierre, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast parce que tu fais un des métiers qui me fait le plus rêver. Bah, les lumières bien calibrées dans un concert ou un festival, ça me fait toujours un truc. Et ça me rend heureuse de voir l'attention et la créativité qui est mise dedans. Et je trouve que ça donne toujours une âme au concert et au show. Et tellement que parfois, je me mets à côté de la régie technique dans la salle et que je passe presque plus de temps à regarder ce que font les techniciens sur le concert en lui-même. Et je note souvent dans un coin de ma tête, un jour, j'apprendrai à faire ça. Puis bon, à l'heure où je vous parle, bien sûr, j'ai jamais passé le pas de me renseigner sur comment se former à cette forme artistique. Mais il faut savoir que moi, je suis une âme sensible. Alors une belle scénographie, une belle lumière, une belle synchro, musique-lumière, ça peut me faire chialer, voilà, pour peu que je sois déjà heureuse d'être là où je suis. Alors je pourrais citer des dizaines de concerts où, associé à la musique, la lumière m'a prise aux tripes. Je pense à Flavien Berger à l'Olympia, je pense à Son Lux, à Stereo Lux, à Bonnie Banane à La Cigale, à Setangana qu'on a vu à We Love Green, j'en passe et des meilleurs. Mais dans mes souvenirs, le premier live où j'ai chialé de beauté, c'était un concert de Balthazar à Stereo Lux à Nantes, quand ils venaient de sortir leur album Thin Walls en 2015. Alors pour nos auditeurs et auditrices, Balthazar c'est un groupe belge de rock alternatif. Ils ont commencé à jouer ensemble en 2004 et ils sortent leur premier album en 2010. Et la formation du groupe a pas mal évolué depuis, notamment en 2018 avec le départ de la violoniste Patricia Van Este, je sais pas si je prononce correctement car c'est flamand, mais qui était membre du groupe depuis ses débuts et qui était aux côtés des chanteurs et guitaristes Martin Devoldere, et Rinte Deprez. Voilà, donc bref, présentation de Balthazar. Et donc en 2015, moi je les vois pour la première fois. C'est une copine qu'on a dédicacé souvent ici, Kim, qui me fait découvrir leur musique et qui m'avait emmené à leur concert à Stereo Lux. Et j'en attendais rien de spécial, très honnêtement. Mais j'en suis ressortie en chialant, bien entendu. Alors je me souviens encore de ce moment comme quelque chose de vraiment magique où tout s'accordait à merveille, où les lumières viennent s'ajouter à la beauté un peu suspendue du moment. Et le concert finit sur un titre qui s'appelle Blood Like Wine, qui est le dernier titre de leur premier album qui s'appelle Applause. Et bien sûr, moi, j'ai aucune idée des noms techniques de ce qui se passe, mais dans la salle noire se déploient de minuscules faisceaux lumineux qui se déplacent tout doucement au rythme de la musique, qui accompagnent un peu bah, le public et la joie d'entendre un peu ce titre phare du groupe qui est un de leurs singles. Et il y avait vraiment une manière de chanter. Ils finissaient tous le titre a cappella sans instrument. Et puis, il y avait ces jolies lumières-là. Et vraiment, ce moment m'a marqué. Alors, je vous propose qu'en souvenir de ce chouette souvenir, on écoute Blood Like Wine de Balthazar. Since I got some sleep, how long since she grew her hair to keep? So now. C'était donc Blood Like Wine de Balthazar. J'espère que vous avez pu imaginer mes petits faisceaux lumineux en écoutant ce titre. Et donc, moi, au moment où je les vois en concert, Balthazar, ils sont en train de faire la tournée de Thin Walls, donc un album qui parle notamment de la vie sur la route, du manque d'intimité, d'où le titre de l'album, mais aussi de l'effervescence que tu vis en tant qu'artiste. Et on en a déjà un tout petit peu parlé avec toi, mais tu passes beaucoup de temps sur la route avec les artistes, et du coup, on a un peu plein de questions sur savoir comment ça se passe, la vie sur la route. Moi, il y a notamment un truc qui me pose question, c'est est-ce que c'est pas les journées les plus longues de la vie ? Puisqu'on pense aux artistes qui arrivent sur scène et qui jouent, mais vous, vous êtes avant et après, parce que j'imagine qu'il y a le montage et le démontage. Donc comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ?
Ouais, c'est un peu ça, mais on a quand même deux formats différents de tournées. On a les tournées que je vais dire avec camion, avec toute une grande équipe qui se font uniquement en Europe et aux États-Unis. Donc là, on prépare le matériel, on va dormir dans des bus la nuit, on va avoir nos camions, donc tout notre matériel qui va être monté du matin et démonté au soir. Mmh. On va prendre la route entre deux concerts, on va dormir dans un bus aménagé pour ça, hein, ouais. Avec des lits évidemment. Donc ça, c'est plutôt les journées intenses où effectivement, ça travaille très tôt le matin, ça finit très tard le lendemain d'après.
Ouais. Voilà.
Et à l'inverse, on a les tournées en avion qui se font plutôt en Amérique du Sud ou en Asie, où là on fait des concerts uniquement dans les capitales de chaque ville, où évidemment on peut pas faire tourner des camions et des bus entre chaque pays ou chaque ville, ce serait mm-hmm. beaucoup trop long. Donc on envoie uniquement en fret ce qui est important au groupe, c'est-à-dire les instruments de musique en particulier. Donc là, c'est plutôt confort pour nous. On arrive un peu comme des DJ avec nos clés USB. Par contre, la préparation en amont est beaucoup plus longue parce qu'il faut qu'ils nous fournissent tout ce dont on a besoin.
Ouais.
Donc c'est beaucoup d'échanges par mail en amont. Et là, on peut arriver dans l'après-midi au dernier moment, faire les réglages parce que tout est prêt et repartir juste après le concert, 5 minutes après, okay. Partir dans notre hôtel et prendre un avion le jour d'après.
Ouais. Ça veut dire typiquement là sur des éléments de décor que vous préparez, c'est construit sur place ?
Alors, c'est pas que c'est construit sur place, c'est qu'il peut y avoir du fret, voilà, pour envoyer ces éléments de décor, avoir plusieurs kits pour que pendant qu'un joue dans un pays, l'autre voyage vers l'autre. Mmh. Après, moi personnellement et les groupes pour lesquels je travaille, on est sensible au côté éco-responsable. Donc, on s'assure de pas avoir d'éléments comme ça compliqués à faire voyager uniquement les instruments. Pour la dernière tournée de Phoenix, même si c'est imposant, c'est uniquement des écrans vidéo, des praticables, donc ça on les prend sur place. On fait attention à pas prendre avec nous une trop grande équipe non plus, on veut faire travailler les locaux, prendre le matériel sur place, même s'il est vieux, vétuste ou plus d'actualité, on s'arrange toujours pour y arriver, voilà.
Trop bien,
ça c'est une volonté vraiment que t'as depuis maintenant plusieurs années
Depuis toujours, là, je ne sais pas d'ailleurs.
Et puis aussi, mais c'est surtout une fierté après de voir qu'on peut avoir un résultat similaire au fin fond du Pérou, comme à New York, comme à Jakarta ou à Bali. On s'adapte et ça fait extrêmement plaisir aux locaux, on fait des super rencontres.
Trop bien.
Et à quel point le show peut changer, par exemple, au fur et à mesure d'une tournée ?
Alors ça dépend des groupes, mais effectivement, avec Phoenix, dès qu'ils ont du temps, ils vont retravailler la musique, ajouter des choses, et nous, il faut qu'on soit là pour suivre. J'ai tendance à dire que la musique électronique, c'est souvent, on garde la même base, mais voilà, un groupe de rock va faire évoluer leurs nouveaux morceaux pour le live.
Oui, c'est ça, c'est qu'eux, ils testent des trucs, si ça marche pas avec le public, ils sont obligés d'adapter aussi, quoi. Donc vous êtes obligés de vous adapter derrière.
On est obligés d'évoluer, exactement. C'est pour ça que j'aime tourner avec les artistes, parce qu'en sortie de résidence, quand on vient de créer le show, et à la fin d'une tournée, 2 ans après, ça peut avoir complètement changé, et c'est cool d'être là pour suivre ça, quoi.
J'imagine que ça doit être aussi assez intense comme rythme, quoi, pour toi, pour vous.
C'est assez confortable, à vrai dire. Okay. C'est juste que entre deux tournées, on doit continuer à travailler pour la tournée d'après, à la préparer. Et finalement, on travaille un peu tout le temps, mais.
Ouais, c'est ça.
Moi, quand je suis sur la route, c'est plutôt le côté repos, en fait, parce que j'ai fait mon travail en amont. Là, c'est plutôt le travail des techniciens. Et je suis juste là pour m'assurer que tout se passe bien, mais en général, on voit des beaux pays, on travaille avec des gens chouettes, donc c'est plutôt cool.
Et justement, est-ce que tu as une anecdote particulière de tournée qui t'a marqué ?
Peut-être les Strokes au Mexique ou au Pérou. Je sais qu'au Mexique, c'est mon pays préféré pour les concerts. Okay. Ils sont complètement fous de musique dans le bon sens, c'est assez génial. Et on jouait dans un stade, je crois, en pelouse ou un hippodrome. Et le sol littéralement bougeait. Il y avait des milliers de Mexicains en transe devant les Strokes. Et je me souviens que ma console lumière tremblait, quasiment tombée de la table, alors qu'on jouait sur de la pelouse, quoi.
Mais, c'est fou.
Voilà. Incroyable. Et au Pérou, pareil, ils montaient sur les stacks de son partout. C'est génial.
Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un truc de communion, quoi.
Ouais, c'est ça. Et dans ces pays-là, enfin, ils viennent nous attendre à l'aéroport. Les fans, ils connaissent même le crew par leur prénom. Ils nous offrent des cadeaux.
Ah ouais, c'est incroyable.
Ouais, c'est fou.
Trop fou.
Et du coup, quand t'es pas en tournée, au quotidien, quand t'es chez toi, ça ressemble à quoi, du coup, la vie, justement, en dehors des tournées ? C'est essentiellement, du coup, travailler sur les prochains projets.
C'est plutôt ça. Ouais. en vrai, c'est assez constant. Je tourne toujours avec un groupe. Je fais 3-4 créations par an pour différents groupes, mais je peux pas tourner avec tous, évidemment. Okay. Donc, en ce moment, par exemple, je tourne avec Phoenix depuis un an et demi. Il reste, je pense, un an et demi de tournée. Mais en général, ils sont pères de famille, donc on part pas trop longtemps. On part 2 semaines, on rentre 3 semaines.
Ce que j'allais dire, parce que j'avoue, quasiment 3 ans de tournée, ça me paraît long, mais c'est ça, c'est que c'est par.
C'est par petits bouts. Et puis quand on part beaucoup plus loin, évidemment, genre en Australie, là on va rester 2-3 semaines, mais sinon en Europe, on rentre toutes les semaines. Voilà.
Okay.
Et donc là, je travaille en même temps sur 4 tournées qui vont avoir lieu l'année prochaine.
Et du coup, ça m'intéresse, ça, par exemple, tu disais que tu peux pas tourner avec toutes les créations, donc tu délègues à quoi, un ingé lumière que tu formes, à comment gérer cette création-là ?
Ouais, c'est ça. Okay. Soit je délègue, on fait la résidence ensemble et lui part sur la route, ou alors il m'arrive souvent de faire des collabs avec d'autres, avec des confrères. On crée le spectacle à deux. Par exemple, Juliette Armanet, j'ai fait ça avec quelqu'un qui s'appelle Antoine, qui est le meilleur ami de Juliette Armanet. On a fait la création en deux, il est parti sur la route avec elle. Quand il y a des choses à renouveler, on le fait ensemble. Ouais. Voilà.
C'est bien, tu es sur 3 créneaux en même temps. Quoi. C'est ça, tu peux dire ce soir, je joue à... Voici la liste de tous les endroits.
Si vous êtes par là, vous pouvez me voir là.
C'est marrant. Ouais. Tu nous as parlé tout à l'heure du fait que l'artiste avec qui tu rêvais de travailler, c'était Tamin Pala. Est-ce qu'il y a des artistes... est-ce que il y a un artiste ou plusieurs artistes avec qui tu étais extrêmement fier de travailler
Ouais, clairement les Strokes. Enfin, quand j'ai reçu un appel, c'était mon groupe préféré. J'arrivais pas à y croire. J'avais juste vu sur Instagram, ils avaient fait un espèce de post où ils avaient mis un bout de carte à Bilbao, je crois. Mm-hmm. Et ça a excité tout le monde. Les Strokes sont de retour. y compris moi en tant que fan. Hein. Ouais, ouais. Et le lendemain, j'avais un email de « Est-ce que tu veux faire partie de la création du prochaine tournée des Strokes ?»
Incroyable. Ouais.
Voilà, c'était pas une super expérience avec du recul, mais je suis content de l'avoir fait. Bon, c'est exactement le genre d'artiste qui s'intéresse pas vraiment à leur, à leur scénographie, comme je vous expliquais tout à l'heure. Mais je reste encore un fan, malgré tout.
Et est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as un concert ou une date en particulier avec quel que soit l'artiste, mais tu sais, vraiment qui t'a marqué, ton, plus ou moins ton plus beau souvenir, quoi, tu sais, celle où les étoiles s'alignent. Et t'as vraiment l'impression de vivre un moment incroyable.
Peut-être juste la semaine dernière en fait, j'ai été voir Drap Majesty à la Marbrerie à Montreuil. Et en fait, ça fait longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça musicale. Je sais pas si ça vous parle ce groupe.
C'est non, je connais pas moi.
Cold Wave, un peu à The Cure, mais assez fou. Enfin, je vous conseille d'écouter.
Grave. Ouais.
Et c'était complètement pas prévu, c'est un de mes meilleurs amis qui m'y a traîné et je me suis retrouvé au milieu de la foule complètement, je sais pas, comme un gamin en transe devant la musique. Je voulais pas que les lumières se rallument, ça fait longtemps que j'avais pas vécu un truc comme ça, quoi.
Et on n'a pas encore parlé de cet aspect-là, mais c'est vrai que tu travailles aussi, mine de rien, sur de la publicité, sur du live stream. Alors ça, j'aimerais bien que tu nous expliques c'est quoi la différence que tu fais, parce que bah, c'est vrai que parmi les artistes avec qui tu as collaboré justement sur du live stream, il y a quand même des gens prestigieux, que ça soit Christine and the Queens, Damon Albarn, là ou plus récemment The Kills avec les Arte Concerts. Comment tu distingues ce travail là peut-être du travail en concert, et puis on parlera un peu plus tard de la pub.
Oui, bah, y a une différence de travail dans la durée. Les live streams, c'est complètement éphémère, enfin, ça va être un show unique qui va pas être en tournée, donc qui se prépare pas du tout de la même manière. J'ai pas envie de travailler 6 mois sur quelque chose qui va durer une heure, quoi.
Bien sûr, ouais, je comprends.
Donc tous les ans, je fais Arte Concert Festival à la Gaîté Lyrique, par exemple. Ça, c'est une boîte noire où on nous laisse complètement libre de recréer une nouvelle scène qui est souvent à 360 degrés et où on va filmer une dizaine de groupes pendant 3 jours.
Okay.
Donc là, clairement pour moi, il est impossible de préparer chaque show comme je le fais pour les spectacles en tournée. C'est complètement de l'impro en essayant d'avoir une identité différente suivant les artistes.
Okay.
Donc là, on avait Chili Gonzalez au piano comme Jenny Bess la veille, donc c'est pas du tout la même énergie. Et ça, j'adore. Là, pour le coup, rien n'est prévu. On appuie sur tous les boutons et on s'éclate. Et il y a eu aussi le côté vraiment live stream pendant la pandémie, ce qui nous a complètement bloqué dans le spectacle vivant. Cette mode de faire des concerts filmés sans public, quoi. Voilà. Il y a eu Arte Concert Festival, une édition comme ça. J'ai aussi fait un live stream de Future Islands en distanciel. Eux jouaient à Baltimore dans un hangar et moi, je faisais la lumière depuis chez moi à Lyon.
Incroyable.
Voilà.
Waouh. Et ça, quelle expérience t'en as, parce que ça doit être très particulier. J'imagine que même si il y a toute une partie créa du coup qui se fait clairement sans public, ça fait quoi de...
C'est une grosse frustration de pas entendre le cri du public de pas sentir la vibe d'une salle, quoi.
Ouais, puis j'imagine que tu dois réfléchir autrement parce que tu réfléchis avec la caméra en fait.
Ouais, complètement. Ouais. Là, c'est un travail, évidemment, avec un réalisateur, un directeur photo.
Ce qui link un peu du coup avec la pub.
Bah, c'est ce que j'allais dire, du coup j'imagine qu'il doit y avoir un lien, parce que c'est vrai que tu as travaillé... Alors c'était quoi ton poste exactement sur une publicité? C'était pareil, c'était designer...
Ouais, designer lumière.
Et scénographe.
Ouais, voilà, il y a quelque chose qui est assez redondant, c'est pour Yves Saint Laurent, ils ont une campagne avec leurs égéries. Voilà, une fois sur deux, c'est en extérieur et la seconde fois c'est plutôt dans un cadre un peu scénique devant une fausse scène ou un faux public. Voilà, j'ai déjà fait ça avec Adam Levine et Lenny Kravitz, où on simule un faux concert, donc il faut une fausse scénographie.
Et c'est toi, on t'appelle, on te dit il faudrait faire une fausse scénographie et t'es en mode ok, y a pas de souci, hop.
Et là par exemple dans ces cas-là, c'est surtout avec la marque que tu discutes, ou c'est avec les artistes, parce que...
Ah non, là c'est complètement avec le réalisateur. C'est,
d'accord, là
c'est la marque. Oui.
Ok, très bien. Et par exemple, sur la pub, parce que là, je crois que c'est plus récent, hein, mais la pub avec DJ Snake pour le McDo, je dis pas de bêtises. comment ça se... comment ça vient, enfin comment on t'appelle à ce moment-là, parce que c'est vrai que ça me paraît, moi qui travaille un petit peu dans l'audiovisuel, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir quand même un certain nombre de différences. Pourquoi on t'appelle là-dessus
Ouais, pareil pour moi, ça m'a complètement surpris, mais le pitch, c'était un livreur de fast-food qui devait apporter la commande à DJ Snake qui est en train de jouer sur scène dans un faux concert.
D'accord.
Donc le réalisateur avait besoin je crois que c'était en Croatie de recréer une scène avec un faux public parce qu'il pouvait pas le faire en France, il fallait avoir des contrats de travail pour chaque personne du public. Donc là-bas ils ont organisé ce faux concert, nous on a organisé cette fausse scénographie.
D'accord. Ah oui, donc là-dessus c'est ça, tu travailles sur la scénographie pour le show, enfin pour la pub en tant que telle, quoi.
C'est ça, comme si on faisait un faux concert.
Exactement. Et... ok, d'accord, trop bien.
Ouais, c'est assez marrant à regarder du coup, parce que donc comme t'as dit que t'avais fait de la pub, moi je suis allée sur ton Insta, j'ai regardé et tout, et en effet la pub avec DJ Snake, elle est très marrante parce que tu te dis, bah ok, c'est... parce que lui d'habitude il fait des gigastats, j'imagine, ouais, tu vois, et donc là il est dans un club, puis en mode ça n'a aucun sens. Mais c'est marrant, ouais.
Ouais.
Et oui, c'est ça, et toi c'est une expérience du coup, parce que c'est pas les mêmes intervenants, justement les mêmes échanges, c'est... ce rapport à la caméra.
C'est hyper enrichissant, et c'est surtout une autre façon de travailler, d'avoir le temps de préparer les choses. Le live, ça va très vite. Il faut que tout aille vite. L'installation, que là, on a le temps pour faire chaque scène. C'est plutôt agréable. Ouais.
Trop bien. On arrive tranquillement à la fin de l'épisode, mais on a une petite tradition dans le son d'après. Une question qu'on a posée, je crois, à tous nos invités. C'est quoi la musique qui te met dans tes émotions ?
Te faire ressentir des trucs profondément.
Un style de musique ?
La musique, un artiste, ce que tu veux.
Je dirais la dream pop dans son ensemble.
Ok.
Voilà.
Est-ce que tu aurais des artistes à nous citer ? Parce que je suis pas sûr de situer là quand tu me dis ça.
J'ai mon idée, ce serait la dream pop dans son ensemble, mais un album de Cocteau Twins particulièrement.
Okay. Voilà. Très bien. Tu saurais le nom de l'album ?
Ouais, c'est Heaven or Las Vegas. Okay. Cocteau Twins. C'est de 90. Voilà.
Okay, trop bien. Et je suis très curieux d'aller écouter donc Cocteau comme Jean Cocteau et Twins comme des jumeaux. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Déjà, on tenait à te remercier chaleureusement.
Merci beaucoup à vous
d'être venu. Au niveau de l'actualité, tu nous en as un petit peu parlé. Là, du coup, ça prépare des concerts. Est-ce que tu veux déjà nous annoncer les groupes avec qui tu travailles ? Est-ce que c'est secret ?
Je pense que c'est secret. D'accord. Ils doivent apparaître au printemps prochain, mais voilà.
Pour l'instant, c'est encore un peu tôt, du coup.
Voilà.
Si c'est secret tout ça, on vous conseille vivement de suivre Pierre-Claude sur son Instagram. On vous mettra tout ça dans les liens notes du podcast. Et on va terminer du coup par la vraie dernière question de ce podcast.
C'est jamais vraiment fini.
C'est quoi le son que tu vas écouter après cet enregistrement ? Le son d'après cet enregistrement ? Celui que
sur
tu
la
vas...
route pour rentrer chez moi ?
Ouais, ouais. Exactement.
J'ai bien envie d'écouter un album de Dry Cleaning.
Ok.
Est-ce que tu as un morceau en particulier ?
Non, pas vraiment.
On mettra l'intro du coup de cet album. Ouais. On va aller observer ça et c'est le son qui va du coup clôturer cet épisode. On te remercie encore une fois chaleureusement d'être venu ici et de nous avoir parlé dans ce micro. Et nous, Louise, on se dit à dans deux semaines. Flies going crazy, wiggling and flipping. Emporio Armani builder. I see shit everywhere. Hustling, deal making on the train. And a calls from the Arctic. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.